Parole d'auteur. Parole d'auteur, Philippe Gilbert.
Contemplatif, il préférait poétiser plutôt que chasser. Portant un nom prestigieux, il fut un conquérant à sa manière, il voulait comprendre la marche du monde. Convaincu que les conquêtes pacifiques de l'homme sur la nature valent mieux que les triomphes guerriers, il croyait que les seules victoires sans regret sont celles remportées sur l'ignorance. Il appelait de ses voeux une humanité unie, marchant vers une république mondiale fondée sur le savoir et la fraternité. Ses idées progressistes reflétaient une époque confiante dans l'avenir et les progrès des sciences. Créateur du plus grand herbier du monde et d'une immense bibliothèque, Roland Bonaparte, ce prince savant, pionnier et mécène humaniste, sort de l'oubli grâce à l'ouvrage d'Audrey Marty, ouvrage intitulé Roland Bonaparte, le prince savant, paru aux éditions Le Papillon Rouge Éditeur. Bonjour Audrey Marty.
Bonjour à toutes et tous.
Bonjour à nos auditeurs que je salue. Et je vous rappelle que vous pourrez retrouver cette émission sur notre site et en podcast sur toutes les grandes plateformes numériques. Alors Audrey, une première question qui peut-être n'a pas de réponse. Devient-on bonapartiste en écrivant sur un Bonaparte ?
Alors, en fait, Roland Bonaparte, ce qui m'a plu dans ce personnage, c'est que c'est un Bonaparte un peu particulier, qui n'a pas pu s'appeler Bonaparte dès sa naissance. Et donc, ça a forgé son caractère et ça a créé un personnage un peu, un peu dans la marge. Et c'est ça qui m'a plu. Ensuite, bonapartiste, enfin, j'aime l'histoire et forcément le destin, notamment de Napoléon, m'intéresse. Hein. Mais c'est vrai que c'est beaucoup jalonné de conquêtes, de choses militaires qui m'intéressent moins. C'est vrai que toutes les histoires un peu autour des guerres, c'est pas forcément quelque chose qui me plaît. Mais je connaissais déjà quand même ce personnage.
Et qui, de toute façon, on peut dire que ce n'était pas la tasse de thé non plus de Roland Bonaparte, puisqu'on pourrait presque le qualifier
pacifiste.
Et, ou d'anti-Bonaparte ou de Bonaparte à contre-courant, puisqu'il n'était pas du tout dans la lignée d'abord de Napoléon, et ensuite il n'a jamais manifesté de vocation ou d'intention politique.
Oui, mais ensuite, c'est vrai qu'il s'est beaucoup. Lui, il était très impressionné par le destin de Napoléon, plus que de Napoléon III. Et c'est vrai que dans son palais qui s'était fait construire à Paris, avenue d'Iéna, en plus Iéna, voilà une bataille napoléonienne, il avait acheté en fait du mobilier napoléonien, il avait des copies par exemple de Bonaparte franchissant le Grand Saint-Bernard. Donc il était quand même admiratif de ce personnage, mais il s'en est détaché en s'intéressant à des choses autres que le pouvoir et la guerre.
Alors, je voudrais préciser à nos auditeurs un petit peu, leur rappeler le cursus que vous avez. Vous êtes diplômé de l'art et d'archives,
oui.
Ce qui est quelque chose de très utile dans l'exercice de l'écriture de biographie. Et ce qui est important à souligner, parce que comme nous allons le découvrir, on voit très bien en lisant cet ouvrage qu'il y a un travail profond de biographes, de documentation, et donc au vu de votre cursus, je n'ai pas été étonné du résultat. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes à la fois donc auteur et biographe? On va y revenir tout à l'heure pour savoir s'il y a une petite différence et quelles sont les perspectives que vous voyez en termes d'écriture, de biographie et peut-être d'écriture roman, etc. Vous êtes également donc conférencière et vous animez des ateliers d'initiation à l'histoire de l'art. Dans quel cadre faites-vous ça?
Souvent, c'est les médiathèques qui font appel à moi. Et quand elles ont des thématiques un peu particulières, des thématiques particulières sur les femmes notamment, sur certains points de l'histoire que j'ai développés dans mes ouvrages, puisque celui-là c'est le sixième, du coup ils font appel à moi ou c'est moi qui les sollicite. Et c'est vrai que souvent aussi on me contacte pour la journée des droits des femmes le 8 mars. Et c'est souvent une période où je suis pas mal occupée.
Alors, passons à votre bibliographie. Votre bibliographie comporte à ce jour donc 6 ouvrages. Mmh. Roland Bonaparte, c'est le 6e. Et parmi ces ouvrages, il y a beaucoup de biographies. Dans ces biographies concernent pratiquement à chaque fois des personnages peu connus ou que l'on pourrait qualifier de personnages un peu oubliés de l'histoire. Alors, pour quelle raison va votre choix toujours dans cette direction, au moins en ce qui concerne les biographies?
En fait, ma première biographie qui est sortie en 2020, donc qui s'intitule Le destin fabuleux de Jeanne Dieu Lafoy. Jeanne Dieu Lafoy, c'est une Toulousaine oubliée, effectivement. C'est une des premières femmes archéologues en France. Et c'est vrai que je suis partie, voilà, sur l'idée de faire un livre sur ce personnage parce qu'elle avait été un peu oubliée comme beaucoup de personnages féminins de l'histoire. Et donc c'est un peu par hasard que je suis, voilà, que j'ai travaillé sur elle. Et ensuite j'ai travaillé sur une dompteuse, Nouma Hawa, reine des fauves, qui est sortie en 2023. Et c'est vrai que voilà, je me suis un peu spécialisée, on va dire, dans les femmes oubliées. Et finalement, Roland Bonaparte, eh bien, c'est le seul homme oublié pour l'instant que j'ai trouvé et qui m'a intéressée, parce que je ne fais pas que sur les femmes. Et oui, ces personnages m'intéressent parce que je me dis à quoi bon écrire une énième biographie sur un personnage déjà très célèbre et je vois pas qu'est-ce que moi j'apporterais. Voilà, j'essaye de savoir qu'est-ce que mon travail peut apporter à l'édifice, en fait. Et donc, c'est pour ça que je m'intéresse aux personnages oubliés.
Alors, nous allons venir à l'activité de biographe. Auparavant, j'aimerais bien que vous nous expliquiez ce que vous pensez des conditions d'exercice du métier d'écrivain de manière générale, puisque en préparant cette émission, et depuis la dernière d'ailleurs, je vous suis un petit peu et vous paraissez de temps en temps assez virulente pour dénoncer un certain nombre de choses relatives aux conditions d'exercice justement du métier.
En fait, le métier d'écrivain, c'est vrai que je ne le pensais pas forcément comme ça. Bon, c'est déjà un métier au départ solitaire où on fait beaucoup de recherches, on travaille beaucoup. Enfin, moi, pour ma part, comme c'est des livres historiques, je travaille toujours en amont. Et c'est vrai qu'après, c'est compliqué. Voilà, quand on est chez un petit éditeur, c'est compliqué de se faire connaître. Et c'est plutôt ça qui me fait un peu râler de temps en temps, me disant que. Voilà, il y a plein d'ouvrages qui passent à côté de leur public parce qu'on n'a pas assez de médiatisation. Et il y a tellement de livres qui sortent que forcément, on se perd un peu, nous, dans la masse. Et quand on est un petit, voilà, chez un petit éditeur, c'est vrai que quand je fais des dédicaces, par exemple, le jour J, il y a plein de mes livres. Si je retourne quelques jours après, il n'y a plus qu'un ou deux. Ils ont été cachés derrière d'autres qui sont sortis. Enfin, voilà, c'est ce côté un peu. Comment dire, de consommer, voilà, la consommation à outrance de tous les livres fait qu'on passe à côté de certains ouvrages.
Et est-ce que vous avez imaginé, pensé à des solutions pour briser cet état de choses, cet état de fait?
Mais il faut peut-être que les libraires nous fassent plus confiance, nous mettent peut-être plus en avant, la presse régionale. C'est vrai que tous les ans, j'ai un article dans la Dépêche, mais c'est vrai que c'est pas évident, voilà, de faire son trou, on va dire.
Alors revenons au métier de biographe. Donc c'est vraiment un métier à part entière et bien distinct du métier de romancier. Où est-ce qu'il y a des points communs?
Mais en fait, j'ai d'abord écrit, oui, j'ai écrit trois biographies, donc celle-là, c'est la troisième, et j'ai écrit un roman historique, donc Le voyage de Lady Liberty, qui est sorti l'année dernière. Et c'est vrai que c'était mon premier. Et donc je dirais que la différence, eh bien, c'est l'imagination, forcément. Dans les romans historiques, j'essaye de mélanger la fiction que j'ai imaginée dans ma tête avec la réalité. Voilà, essayer de mélanger les deux. Tandis que dans les biographies, c'est vrai que je m'attarde vraiment sur les faits. J'essaye d'être fidèle à la vie de la personne. Mais par contre, dans le dernier, Roland Bonaparte, justement, je l'ai écrit après le roman, j'ai un peu plus romancé. J'ai eu un peu plus envie de rendre sa vie comment dire, plus attrayante à tous les lecteurs, parce que souvent les gens me disent que les biographies, c'est peut-être quelque chose qui concerne un petit public, et je voudrais un peu rendre la biographie grand public.
Alors, rendre la biographie grand public, est-ce que ça passe forcément par ce qu'on appelle la biographie romancée?
Je sais pas. Enfin, moi, pour Roland Bonaparte, j'ai eu envie de travailler en fait comme si c'était un biopic de cinéma. Voilà, les biopics de cinéma, je trouve qu'ils ont cette liberté de pouvoir un peu jouer sur les flashbacks, faire des scènes un peu différentes de ce qu'on pourrait attendre de quelque chose de biographique. Et je trouve que enfin, j'ai envie de partir en plus dans cette façon de faire qui soit assez visuelle, assez comme si c'était une série Netflix un peu aussi. Voilà. J'ai voilà. envie de.
Le secret pour capter l'intérêt des futurs
c'est
lecteurs.
Ça, c'est ça. Oui.
Alors, vous avez à chaque fois eu un travail préalable très important de recherche sur chacun de ces personnages. Vous accumulez les détails, sans doute, les informations à leur sujet. Et finalement, est-ce que ce n'est pas aussi une manière de rentrer un peu dans l'intimité de ces personnages ?
Mais justement, récemment, une journaliste du Progrès a publié un article donc, sur Roland Bonaparte, et elle a fait une double interview avec moi et avec la responsable de l'herbier de Roland Bonaparte à Lyon. Elle lui a demandé son avis et j'ai bien aimé ce qu'elle a répondu. Elle a dit que ce livre permettait de voir l'humain derrière le mécène ou derrière le scientifique. Et c'est vrai que dans ce livre, j'ai voulu montrer la part d'humanité de ce personnage qui était particulier et j'espère y être arrivé.
Alors j'ai relevé une phrase dans la presse que, au-delà donc du fait de rentrer dans l'intimité de vos personnages, vous finissiez par les aimer. Est-ce que cet attachement, c'est quelque chose qui vient petit à petit, et est-ce que c'est quelque chose qui dure ?
Ben c'est pareil pour mon premier ouvrage, Jeanne de Dieu la Foy. J'ai travaillé pendant 5 ans sur sa biographie, à chercher les moindres détails, à rencontrer sa famille. Donc forcément, ça crée des choses particulières. Elle m'a fait vivre, voilà, j'imagine que c'est un peu ma bonne fée. Et c'est vrai que j'ai tendance à m'attacher à mes personnages. Et j'aime bien continuer à les faire vivre après le livre. Pour Jeanne Dieu la Foy, avec sa famille, on a fait mettre une plaque commémorative dans la rue où elle est née, rue Jouxtègue à Toulouse. Pour Nouma Awa, qui était donc une dame qui venait d'Ardèche, je suis allée rencontrer les gens de son village à Pogre pour leur faire connaître ce personnage. J'aime bien aller au-delà, les porter jusqu'au bout, en fait. Et Roland Bonaparte, pareil, j'ai travaillé un an avec lui. Et c'est vrai que forcément, tous ces personnages habitent mes pensées. Et je pense que je ne pourrais pas écrire sur des personnes que je n'aime pas ou que j'admire pas. Voilà.
Alors, on l'a dit tout à l'heure, enfin, on l'a évoqué tout à l'heure, écrire une biographie, ça suppose un travail d'enquête, d'investigation très profond. Est-ce que vous avez une méthode à vous, ou est-ce que vous appliquez des méthodes, celles qu'on vous a enseignées pendant vos études, par exemple, ou est-ce que, au fil de l'expérience, vous avez compris un certain nombre de choses, vous avez mis en place un certain nombre de méthodes qui vous sont propres ?
Mais pour justement le premier, j'ai mis 5 ans, et justement parce que j'ai mis du temps à réunir les éléments. Mais c'est vrai que maintenant, oui, j'ai une méthode que j'ai développée. Et puis comme je m'intéresse toujours à des personnages de la même époque, maintenant je commence à avoir un peu des habitudes, des automatismes, on va dire. Je garde des archives dans mon ordinateur, comme ça peut me servir pour plus tard. Et c'est vrai que ma méthode, c'est d'abord de lire tout ce que je peux lire sur la personne sur laquelle je vais travailler, et ensuite de voir où c'est que je peux me rendre pour trouver les archives plus intimes. Et après, avec tout ça, je fais des dossiers, et ensuite je me rends compte de... Ça fait ressortir une sorte de squelette, en fait, et je commence à nommer tous mes chapitres, en fait. Et après, ça m'aide à... Chaque chapitre, je les re-remplis de ce que j'ai trouvé... Voilà, c'est un peu une méthode. C'est ma méthode à moi, mais j'ai entendu des podcasts ou des auteurs travailler un peu comme ça.
Alors, tout à l'heure, vous nous aviez dit, on a bien compris, que ce qui vous tenait à cœur, c'est de remettre à la lumière des personnages oubliés. Donc, on voit dans quel sens vous exercez cette activité. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire qu'écrire une biographie, c'est aussi écrire sur soi-même, finalement ?
Ben en fait, je m'intéresse, c'est vrai, à des personnages qui ont des vies un peu à part. Ils ont tous un peu le même parcours, quand même. C'est-à-dire qu'ils naissent dans une catégorie de... Enfin, pour Jeanne et Roland, c'est des bourgeois qui vont partir à l'aventure. Et c'est vrai que c'est ça qui me plaît. Après, ce qui me ressemble... Je sais pas, moi je pars à l'aventure en partant à leur recherche à eux, mais je suis beaucoup moins aventurière que mes héros. Peut-être que je vis l'aventure à travers eux, voilà.
C'est une manière de partir.
C'est ça.
De faire un voyage.
Voilà.
Alors, revenons à Roland Bonaparte. Est-ce que vous pourriez nous dire rapidement pourquoi vous l'avez choisi, lui, ou, si je peux oser la question, comment l'avez-vous rencontré ?
Alors, j'ai rencontré Roland Bonaparte un peu par hasard, en fait, quand j'ai repris mes études en 2019 pour faire un master d'archives à l'Université Jean Jaurès de Toulouse. Et on avait un stage de fin d'études et je l'ai fait au muséum. Et au muséum, il y a une collection photographique du prince Roland Bonaparte. Et c'est comme ça que j'ai entendu parler de lui la première fois, donc en 2019. Et quand il a s'agit de réaliser une autre biographie, j'ai un peu recherché dans mes archives et je suis retombée sur Roland Bonaparte et je me suis aperçue qu'il n'y avait aucune biographie qui avait été faite sur lui. Et donc c'est ça qui m'a donné envie. Et j'ai demandé une aide au Centre National du Livre, aussi une aide financière pour pouvoir faire mes recherches à Paris et à Lyon. Cette demande a été acceptée et du coup avec mon éditeur on s'est lancé dans cette aventure. C'est mon quatrième livre avec les Papillons Rouges. Voilà.
Ah, très bien. Donc, si on vous suit bien, on peut conclure que la parution de cette biographie est une première mondiale.
Oui, voilà. C'est vrai que même dans d'autres langues, il n'y a jamais eu de biographie sur Roland Bonaparte. Donc, je suis contente d'initier cette phase qui permettra peut-être à d'autres de s'y intéresser et d'écrire sur lui différemment.
Audrey Marty, je vous propose maintenant de faire une petite pause musicale.
La tête rentrée, resserrée dans tes épaules. Tu n'aimes rien montrer, là-bas au fond tu t'isoles. Il y a ces deux plis que l'on voit entre tes yeux. Ces mêmes traits d'ennui, beaucoup trop sérieux. Jamais su danser. T'as jamais su glisser. T'as jamais pu, jamais su danser. T'as jamais tu laisses aller. La tête renversée. T'engages au lit. Laisse-toi un jour embarquer. T'es bien engourdi, empêtré, raide, bloqué. Jamais su danser, t'as jamais su glisser. T'as jamais pu, jamais su danser. Jamais tu laisses aller. La tête renversée. Resserré dans tes épaules. Tu n'aimes rien montrer. Là-bas au fond tu t'isoles. Jamais su danser. Jamais su glisser. La tête renversée. La tête renversée.
parole d'auteur. Philippe Gilbert.
Nous sommes en compagnie d'Audrey Marty pour son ouvrage Roland Bonaparte, le prince savant, paru chez Le Papillon Rouge éditeur. Audrey, vous avez choisi une musique, une chanson, jamais su danser. Pourquoi vient-elle côtoyer Roland Bonaparte ?
C'est une chanson que j'aime bien, je trouve qu'elle est entraînante et qu'elle fait passer un joli message, c'est qu'il faut un peu profiter de la vie et se laisser aller et se laisser porter même si on ne sait pas danser. Et j'aime bien aussi l'interprète qui est Ours, et Ours en fait c'est Charles Souchon. Et je trouvais aussi que dans la thématique où on parle de Roland Bonaparte et de la difficulté de se faire un prénom dans une famille, je pense que voilà, que Charles Souchon a sa place dans le paysage musical, même si c'est le fils d'eux. Avec ce pseudo Ours, voilà, il s'est mis un peu en retrait. Et j'aime bien sa façon de faire. Et ça ne doit pas être évident d'être un fils d'eux et de faire sa route. Voilà.
Voilà, donc il faut ménager les fils d'eux.
C'est ça.
Alors, revenons à Roland Bonaparte. Alors, naturellement, je suppose que l'ensemble ou la majorité des auditeurs disent Roland Bonaparte, mais qui c'est celui-là ? C'est le fils d'eux, c'est le cousin d'eux. Alors, est-ce que vous pourriez nous le resituer dans la lignée Bonaparte ?
Alors, Roland Bonaparte, c'est le petit-fils de Lucien Bonaparte, qui était donc le frère de Napoléon. Donc, il y a deux générations d'écart entre Napoléon et Roland. Et donc Roland est le fils aussi de Pierre Napoléon, qui est le fils de Lucien. Et donc ça fait de lui le petit-neveu voilà, de Napoléon et le petit-cousin de Napoléon III.
Donc des ancêtres sans doute très lourds à porter pour Roland Bonaparte. Alors, est-ce que vous pourriez nous décrire son père qui avait quand même une, je dirais, un caractère un peu particulier et oui, qui a quand même influencé son fils, au moins au début.
Oui, Pierre-Napoléon Bonaparte, je le qualifie un peu d'électron libre ou de caillou dans la chaussure des Bonaparte parce que c'est un personnage colérique, c'était un assassin notoire, il s'est enrôlé très jeune dans l'armée, c'était quelqu'un voilà, qui aimait la violence et qui voulait, qui essayait de se faire sa place lui aussi, donc comme Napoléon. Et puis c'était un personnage aussi qui vivait un peu dans la marge, qui aimait bien vivre loin de la ville, il aimait chasser. Voilà. Et c'est vrai que Roland Bonaparte, à son contact, comment dire, il a apprécié d'être dans la nature, mais son père voulait de faire de lui quelqu'un de très dur, de justement de guerrier, et en fait il n'était pas du tout dans cette position là lui il était plus on va dire contemplatif, et donc c'était un peu l'antithèse de son père.
Et alors son père l'a fait vivre dans des conditions, je dirais, pendant ses premières années, un peu rustiques, puisqu'ils étaient en Corse, ils vivaient dans
oui,
la
il
nature.
Oui, ils vivaient à la dure, un peu,
ils
on va dire.
Ils vivaient à la dure. Oui. Et je crois me souvenir que vous évoquez dans votre livre qu'il y avait une vraie ménagerie autour de son père.
Ah, et donc... Oui, son père avait des chiens de chasse qu'il adorait, et certains vivaient avec eux. Il avait aussi adopté des sangliers, sauf qu'il les avait fait venir des Ardennes dans son jardin à Auteuil, et il s'était enfui en plein Paris, donc ça avait fait un peu de grabuge. Donc oui, c'était un personnage vraiment atypique, et comme il vivait un peu au-dessus de ses moyens, ben, il vivait dans des grands châteaux qu'ils avaient du mal à chauffer, et donc toute son enfance, il est un peu malade, donc c'est pas voilà, l'air de la campagne ne lui fait pas tant de bien que ça.
Alors, vous disiez tout à l'heure que son père était un peu écarté, atypique, et officiellement, il a toujours été écarté par Napoléon III.
Oui, mais il a essayé un peu de faire de la politique, puisqu'il me semble qu'il a été député de Corse. Mais après, il a été écarté, effectivement, par son cousin, à qui, voilà, ça plaisait pas qu'il y ait plusieurs Bonaparte, on va dire, aux affaires. Et donc, on l'a un peu éloigné. Et ensuite, eh bien, il a commis un crime irréparable. Voilà, il a assassiné le journaliste Victor Noir. Et donc, c'est ça aussi qui a un peu entraîné sa chute. Voilà.
Voilà, c'est des éléments effectivement cumulés. Il y a peut-être un autre élément aussi qui qui a été déterminant, c'est que son père a épousé donc Justine Éléonore Rufflin, qui avait un gros défaut aux yeux de Napoléon III. Oui. Et donc, il a même refusé de reconnaître le mariage.
Oui, ils ont dû se marier à 3 reprises. Pour que soit reconnue leur union. Éléonore Justine Rufflin, elle était donc fille d'ouvrier, et donc ça plaisait pas trop à la famille impériale qui est ce mariage, et d'ailleurs elle a jamais été reçue à la cour. Et donc elle a dû se battre pour que ses enfants aussi puissent, puisqu'ils ont Pierre-Napoléon et Nina, comme il l'appelait, Nina, ont eu 2 enfants, donc Roland et Jeanne, qui ont dû attendre d'avoir 12 et 10 ans pour pouvoir s'appeler Bonaparte.
Voilà. Donc ce qui a eu sans doute une influence assez déterminante sur Roland Bonaparte, parce que porter un tel nom et ne pas être reconnu, ça produit sans doute des effets.
Oui, c'est ce qui a fait que toute sa vie va être en quête de reconnaissance, et c'est pour ça qu'il va être un peu un touche-à-tout dans toutes les sciences, dans tous les endroits où il peut un peu s'illustrer. Et c'est vrai qu'il doit attendre la chute de l'Empire en fait, pour pouvoir s'appeler Bonaparte. Puisque c'est la République qui reconnaît le mariage de ses parents. Sauf qu'en 1870, quand on s'appelle Bonaparte, eh bien on doit partir en exil. Et donc il va se retrouver exilé dans les Ardennes. Et c'est vrai qu'à chaque fois, ce nom lui donne des avantages et aussi lui apporte beaucoup d'inconvénients.
Alors son éducation va être orientée par goût pour les sciences, mais cette appétence va être développée plutôt par sa mère, puisque comme vous le disiez, son père l'aurait plutôt orienté vers le maniement des armes et l'art de la chasse.
C'est ça, et c'est vrai qu'auprès de sa mère, au départ, elle lui faisait beaucoup la lecture de plein d'ouvrages différents. Et un jour, elle lui a fait la lecture d'un livre de science qui lui a beaucoup plu. Et quand elle a vu son intérêt, elle a demandé à son fils d'essayer de se mettre à apprendre à lire. Et il a presque appris tout seul, à force de s'intéresser à cet ouvrage. Et après, il a fait une carrière quand même. Il a eu son baccalauréat. Il a ensuite fait des études aussi d'anthropologue. Donc c'est quelqu'un qui se révèle sur le tard, mais qui s'intéresse à la culture, au savoir.
Alors avant de s'intéresser aux sciences, à la culture et au savoir, donc il entame une carrière militaire. Et comme vous l'aviez précisé tout à l'heure, cette carrière militaire ne fait pas long feu puisqu'il est obligé d'y renoncer. Alors, Roland va se marier également. Mm-hmm. Alors avec qui va-t-il se marier ?
Avec Marie-Félix Blanc, qui était donc l'héritière de ceux qui ont créé les casinos à Monte-Carlo, de la Société des Bains de Mer, donc elle a beaucoup d'argent. Et sa mère veut qu'elle fasse un beau mariage. Et même si Roland Bonaparte n'a pas trop d'argent, il a ce nom Bonaparte qui fait envie. Et donc, il va épouser Marie-Félix en 1881. Et finalement, le mariage ne va pas durer longtemps parce qu'à la naissance de Marie Bonaparte, un mois après, son épouse va décéder d'une embolie. Donc elle s'est mal remise de l'accouchement. Et donc, la petite Marie Bonaparte, qui deviendra après une grande psychanalyste, va se retrouver orpheline de mère.
Et cette Marie Bonaparte va avoir une relation particulière avec son père, qui va être très souvent absent, donc. Et elle va avoir du mal à tisser un lien avec elle. Comment ça s'est passé ? Quel genre de relation elle a développé ?
Quand il se retrouve veuf, lui, il ne sait pas s'occuper des enfants, surtout d'un nourrisson. Et donc, il va demander à sa mère de venir l'aider. Et finalement, ils vont faire un peu ménage à 3, donc la grand-mère, le fils et la petite fille. Et Marie va grandir avec une grand-mère qui est plutôt sévère, qui la force à s'habiller chaudement à l'intérieur parce qu'ils ont toujours peur qu'elle tombe malade. Comme sa mère était de santé fragile, ils ont peur qu'elle décède prématurément. Et donc tout ça fait qu'elle a une enfance assez horrible, qui va laisser des séquelles. Et du coup, son père est toujours en voyage. Et le seul moyen qu'elle trouve un peu de créer des liens avec lui, c'est à s'intéresser elle également aux sciences. Et comme ça, dès qu'il vient la voir, eh bien, elle peut lui demander des conseils. Il lui explique un peu les astres. Il lui montre comment s'envole un cerf-volant. Enfin, il fait beaucoup d'exercices pratiques, on va dire, avec elle. Et il se rapproche par ce biais-là. Et il l'appelle ma petite Mimi, Mais par contre, il la vouvoie alors qu'elle, elle tutoie son père. Hein. Et ça, ça crée forcément une distance.
C'est une distance qu'elle va vivre toute sa vie finalement, mais qui ne va pas l'empêcher d'être au petit soin de son père, notamment à la fin de sa vie.
Oui, parce que c'est vrai que l'ouvrage, je l'ai, comme j'ai expliqué tout à l'heure, je l'ai composé un peu comme un biopic. Et donc, voilà, ça se passe par la fin. Et on assiste aux deux dernières années de sa vie où il est soigné par sa fille. Et comme il est enfermé chez lui et que c'était un grand voyageur et un grand collectionneur, je me sers de ces objets pour faire des flashbacks et nous permettre de remonter le fil de sa vie et de partager avec lui ses souvenirs.
Alors Roland Bonaparte, est-ce que vous pourriez nous le décrire rapidement au niveau de son physique ?
Alors Roland Bonaparte, sa maman l'appelait mon gros dodu quand il était petit. Et donc c'était une boule, on va dire, quand il était tout petit. Et après, il a extrêmement grandi, faisait plus de 1,80 m. Sur les photographies de l'époque, en plus, il porte un haut de forme, mais il est toujours au moins 20 cm plus grand que tous ses contemporains. C'était un solide gaillard aussi, et qui aimait beaucoup aller crapahuter dans la montagne, donc c'était un peu un alpiniste. Donc il était quand même quelqu'un de physique, même s'il s'intéressait beaucoup aux sciences. Et ensuite, il était myope, ce qui faisait qu'il était, il ne quittait jamais ses lorgnons.
Oui, donc, et malgré ce petit handicap, effectivement, c'est quelqu'un qui a bourlingué, qui a fait beaucoup d'expéditions.
C'est ça, et quand on le voyait, il pouvait faire un peu peur, ça faisait comme un ours mal léché, mais en fait c'était quelqu'un de très posé, très calme, qui avait une voix aussi très, très calme, comme l'expliquait sa fille.
Alors vous précisez dans votre livre qu'il n'a appris à lire qu'à 10 ans, qu'est-ce qui s'est passé ?
Mais c'est son père qui voulait pas qu'il apprenne. Ils avaient pas trop d'argent aussi, donc on lui a pas payé de précepteur. Et donc c'est pour ça qu'il a appris de temps en temps. Il est pas allé à l'école parce que ses parents étaient toujours en voyage entre Paris, la Corse, et ensuite ils ont été exilés. Et c'est vrai que c'est, voilà, au moment de l'exil, après il a quand même été scolarisé à Rochefort, en Belgique. Et là il a rencontré deux autres camarades avec qui il est resté lié toute sa vie aussi. Et avec qui il se battait un peu pour les premières places en géographie, en sciences, en mathématiques. Mais par contre, ses professeurs disaient qu'il n'était pas toujours à l'écoute et que parfois, il pensait mieux savoir que ses professeurs. Voilà.
Audrey Marty, nous allons écouter Le Petit Jardin.
C'était un petit jardin qui sentait bon le métropolitain. Qui sentait bon le bassin parisien, c'était un petit jardin avec une table et une chaise de jardin, avec deux arbres, un pommier et un sapin, au fond d'une cour à la chaussée d'Antin. Mais un jour, près du jardin, passa un homme qui au revers de son veston portait une fleur de béton. Dans le jardin une voix chanta: de grâce, monsieur le promoteur, de grâce, de grâce. Préservez cette grâce, de grâce, de grâce, monsieur le promoteur, ne coupez pas mes fleurs. C'était un petit jardin qui sentait bon le métropolitain. Qui sentait bon le bassin parisien. C'était un petit jardin avec un rouge-gorge dans son sapin, avec un homme qui faisait son jardin, au fond d'une cour à la chaussée d'Antin. Mais un jour, près du jardin, passa un homme qui au revers de son veston portait une fleur de béton. jardin, une voix chantant. De grâce, monsieur le promoteur. De grâce, préservez cette grâce. De grâce, monsieur. C'était un petit jardin qui sentait bon le bassin parisien. À la place du joli petit jardin, il y a l'entrée d'un souterrain où sont rangés comme des parpaings les automobiles du centre urbain. C'était un petit jardin au fond d'une cour à la Chaussée d'Antin. C'était un petit jardin au fond d'une cour à la Chaussée d'Antin.
Parole d'auteur. Philippe Gilbert.
Audrey Marty nous conte aujourd'hui la vie de Roland Bonaparte, le prince savant, dans son ouvrage paru chez Le Papillon Rouge éditeur. Audrey, le petit jardin.
Oui, j'ai voulu proposer aux auditrices et aux auditeurs cette chanson de Jacques Dutronc que j'aime beaucoup. Et comme Roland Bonaparte était un botaniste, je trouvais que évoquer un jardin allait de soi. Et ensuite, c'est vrai que c'est une chanson qui parle de la difficulté de continuer à avoir des espaces verts dans les centres urbains. Et donc, c'est quelque chose qui tenait à cœur aussi à Roland Bonaparte, qui, dans son palais, avait un jardin d'hiver où il cultivait ses plantes.
Alors, nous avons vu ensemble la première partie de la vie de Roland Bonaparte. Nous avons bien compris que la manière dont il a été éduqué et un certain nombre de circonstances ont fait que on peut dire que il n'avait pas grand chose d'un Bonaparte finalement.
Oui, c'est vrai que lui s'accrochait à ce nom, voilà, et puis sa mère aussi voulait qu'il soit reconnu comme héritier des Bonaparte. Mais c'est vrai qu'il a eu un destin, qui a fait qu'il s'est éloigné de tout ce qui était politique, pouvoir et armée, et il préférait pouvoir sortir son épingle du jeu en s'intéressant à des choses qui, pour lui, lui tenaient à cœur. Donc c'était tout ce qui concerne les nouvelles sciences, le progrès. Il croyait beaucoup, au progrès scientifique qui allait permettre à tout un chacun d'améliorer son quotidien.
Et vous précisez dans votre ouvrage que, paradoxalement, ce n'était pas un concurrent comme son illustre ancêtre, mais c'était tout de même un conquérant, puisque vous écrivez « Pourtant, à sa façon, lui aussi était un conquérant, luttant contre l'ignorance, il ambitionnait de comprendre la marche du monde. »
Oui, c'est ce que j'expliquais. Voilà, c'était quelqu'un qui était très ancré dans son époque, et donc qui avait compris que toutes ces nouveautés qui émergeaient, que ce soit l'alpinisme, que ce soit l'aviation, toutes ces choses-là, il a donné de son argent et de son temps parce qu'il savait que ça allait influencer vraiment la société.
Donc on peut dire que Roland Bonaparte était un mécène, un humaniste. Et à ce titre-là, dans ce cadre-là, il a eu de nombreuses activités, de nombreuses responsabilités, notamment dans des sociétés savantes.
Oui, il a été président de la Société de géographie, par exemple. Il était membre aussi actif de la Société d'alpinisme, de l'aéroclub, de la Société d'anthropologie. Il s'intéressait vraiment à beaucoup, beaucoup de choses. Il était abonné aussi à plein de revues. Et donc c'est vrai que c'était un personnage un peu touche-à-tout dans toutes les sciences. Et ensuite, il s'est vraiment consacré qu'à la botanique.
Oui, et c'est ça qui est devenu finalement l'essentiel de son activité, c'est-à-dire que peut-être
C'est ce qu'il a laissé en fait.
voilà, c'est ce qu'il a laissé effectivement. Alors, avant de voir de plus près ce qu'il a laissé, c'était un mécène et donc il a financé, il a soutenu de nombreux projets dans de nombreux domaines d'ailleurs.
C'est ça. Justement, il a aidé à la construction, par exemple, d'un observatoire avant qu'il y ait celui du Pic du Midi. Il en avait financé un autre. Il s'est intéressé à la fonte des glaciers, donc il est allé lui-même faire des prélèvements et ensuite il a payé des personnes pour travailler pour lui. Il a donné de l'argent, j'ai oublié le nom, à un pilote aussi qui a été un des premiers à se poser sur le Mont Blanc. Et il a aussi accompagné Santos Dumont, qui était un pilote brésilien d'aéronef, à accomplir de nombreux exploits. Et notamment, il était président du jury quand il s'est lancé pour le prix Deutsch, qui était un prix donc qu'il pouvait obtenir en faisant le tour de la Tour Eiffel pendant 30 minutes, en partant de Saint-Cloud et faire l'aller-retour. Voilà.
Et d'ailleurs,
J'en parle dans le livre, il y a un
vous en
chapitre.
parlez dans le livre, et je précise quelques petits détails pour les auditeurs, c'est que ce parcours autour de la Tour Eiffel vous permet de décrire l'environnement de l'époque, qui était un environnement qui était très peu urbanisé.
C'est ça, voilà, depuis le parc de Saint-Cloud, par exemple, ben, là, il n'y avait que des champs. On avait installé justement des hangars pour ces grands aéronefs. Et donc, j'explique quand il essaye de s'envoler le matin, mais cela dépend de la condition météo. Et ensuite, ben, quand il va faire ses exploits, parce qu'il va devoir s'y reprendre à plusieurs fois, il va accrocher la corde de son aéronef dans de l'architecture, en fait, et il va s'écraser, en fait, contre. Un hôtel particulier où des gens vont venir l'aider. Voilà, il y aura eu plus de peur que de mal. Mais voilà, c'était une époque où les pionniers de l'aviation faisaient des choses un peu folles.
C'était les débuts de l'aviation, tout
C'est ça.
simplement. Alors, Roland Bonaparte, savant, scientifique, et on va le voir un peu plus dans le détail, grand collectionneur, mais c'était également un explorateur, c'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui restait dans son bureau ou chez lui, c'est quelqu'un qui voyageait et qui a été à la tête de l'expédition scientifique aussi bien en Scandinavie
En
qu'en
Amérique.
Amérique.
Ah oui.
Alors, qu'a-t-il fait de particulier en Scandinavie?
Mais en fait, il s'est intéressé au début à l'anthropologie, donc c'était une science qui était très en vogue à cette époque. Et en fait, on s'intéressait au peuple premier, on va dire, à toutes ces peuplades qui avaient qu'on détenait en fait dans les colonies. Et donc, il y avait des expositions qui étaient organisées, ce qu'on appelle maintenant des zoos humains, et qui, de notre point de vue, maintenant, c'est quand même assez choquant comme organisation. En fait, on exposait des hommes et des femmes venus de contrées lointaines voilà, pour découvrir comment ils s'habillaient, leurs traditions, leur façon de vivre, l'habitat. Voilà, on avait tout reconstruit. Pour eux, et comme ça, les gens venaient visiter sans avoir besoin de voyager. Et Roland Bonaparte, lui, va assister à une exposition de ce type à Amsterdam dans les années 1888, il me semble. Et donc, c'est là qu'il va commencer à faire des photographies anthropologiques. Et c'était des photographies donc qu'on réalisait de façon très scientifique. Elles étaient toujours faites de face et de profil. Voilà, c'était les normes de cette époque. Et au début, il fait ça donc avec ces autochtones qu'il rencontre dans ses expositions. Et finalement, il va choisir, lui, d'aller rencontrer ces gens sur leur terre. Et donc, il va préférer aller faire ses recherches anthropologiques directement donc en Scandinavie pour rencontrer les Samis et les Lapons, et ensuite en Amérique pour aller rencontrer les Amérindiens.
Et à chaque fois, dans tous ces pays, il n'est pas reçu uniquement en tant que scientifique, mais quasiment comme un chef d'État.
Mais oui, puisque voilà, comme son nom, c'est Bonaparte, que ce soit aux États-Unis ou en Scandinavie, voilà, tous les gens sont intéressés par rencontrer donc ce descendant de Napoléon, qui est très grand et que tout le monde voit de loin. Et donc c'est vrai que les populations se pressent à sa rencontre. Et lui, comme c'est quelqu'un quand même de très bonhomme, voilà, il salue la foule, il est très sympathique et il rencontre bien sûr les ambassadeurs, sachant aussi qu'il parle plusieurs langues. Voilà, il a appris, il parle anglais, il parle allemand, Donc c'est vrai qu'aussi ça l'aide dans ses voyages un peu partout dans le monde.
Roland Bonaparte, c'est essentiellement deux grandes réalisations. L'herbier, d'une part, et sa bibliothèque. Alors, est-ce que vous pourriez nous toucher un mot de l'herbier pour commencer ?
Alors, l'herbier, donc au début, comme on expliquait, c'est beaucoup intéressé à l'anthropologie, mais il voyait qu'il pouvait y avoir des... dans l'anthropologie, il y avait une quête un peu de mettre en avant la colonisation. C'était quelque chose qui avait un rapport avec le pouvoir, et comme lui, ce n'était pas quelque chose qui l'intéressait, il a préféré prendre du recul, et donc maintenant, il s'est mis à faire... le botaniste, et donc il a rapporté un peu partout de ses voyages des parts d'herbier, donc des extraits de plantes qu'il rapporte, et ensuite il les met sur des plaques qu'il conserve dans des classeurs, mais ces classeurs il les conserve de façon verticale et pas horizontale, et c'est ce qui change beaucoup d'autres herbiers. Et donc il va faire sa collection des années 1900 jusqu'à sa mort en 1924. Et il va réunir plus de 2,5 millions de spécimens. Et de nos jours, c'est un des plus grands herbiers encore du monde.
Donc il existe toujours.
Oui, il est conservé dans un endroit particulier à l'université Claude Bernard à Lyon. Et on a créé ce bâtiment vraiment exprès pour accueillir les collections de Roland Bonaparte, parce qu'on a conservé tous les meubles dans lequel il avait fait faire, il exposait son herbier, donc c'est des choses sur mesure et très haut, et donc on a dû créer un bâtiment exprès.
Et donc c'est devenu une référence mondiale, cet herbier, et vous précisez d'ailleurs dans votre livre, pour que les auditeurs aient cette dimension de l'importance de l'herbier, qu'il y avait quand même 12 personnes qui travaillaient à temps complet, si j'ai bien compris, sur cet herbier.
Oui, son herbier, il était installé donc dans son hôtel particulier qui était avenue d'Iéna. Et donc, c'était un emplacement voilà, où il avait l'herbier et où il avait sa bibliothèque. Et l'herbier, comme la bibliothèque, voilà, demandait la mobilisation d'un personnel assez important.
Et enfin, donc, la bibliothèque. Alors, la bibliothèque, j'ai cru comprendre qu'il y avait plus de 150 000 ouvrages.
Oui, c'est vraiment quelque chose d'assez volumineux. En fait, au départ, il avait sa propre bibliothèque. Ensuite, il a hérité de celle de son père quand son père est décédé. Parce que son père, même si c'était un chasseur, il aimait beaucoup aussi les livres. Il faisait d'ailleurs de la poésie. Et ensuite, il a racheté plusieurs fonds de bibliothèque de plusieurs personnalités de son temps. Et donc, c'est vrai qu'après, il avait une collection faramineuse. Et il l'ouvrait au public, donc les gens s'adressaient à des bibliothécaires qui leur présentaient des ouvrages qu'ils pouvaient consulter sur place.
Et c'est resté longtemps la première bibliothèque privée en France ?
Oui, d'un particulier, oui.
Même peut-être dans le monde ?
Oui, oui, c'était vraiment une grande bibliothèque, et à son décès, sa fille en a fait don donc à la Bibliothèque de France et à la Société de Géographie.
Alors vous nous avez expliqué la manière dont vous travaillez, vous... collationner les informations. Et ce que je voudrais signaler aux auditeurs, c'est la manière dont vous avez construit cette biographie, avec des flashbacks, en commençant par la fin de sa vie, avec moult détails, la reconstitution du mariage de sa fille. Donc, je voudrais simplement dire aux auditeurs que ceux que vous évoquiez, qui ont peut-être des fois une appréhension sur... le style de la biographie, que ce livre est un bon moyen de lutter contre vos préjugés. Alors Audrey, est-ce qu'il y a, à vos yeux, ou quel type de résonance contemporaine peut-on tirer de la vie de Roland Bonaparte ?
Ben Roland Bonaparte, oui, c'était quelqu'un qui était tourné vers l'avenir, en fait. Et c'est vrai que, par exemple, qu'il se soit intéressé à la fonte des glaciers au tout début du XXe siècle montre voilà, que c'était quelqu'un qui était quand même très en avance et qui réfléchissait beaucoup à ce qui allait se passer plus tard. Et donc, je pense que pour ça, on peut être reconnaissant de ce qu'il a fait, parce qu'il a vraiment essayé d'œuvrer à améliorer la société à son époque et pour l'avenir.
Donc Roland Bonaparte est une personnalité à connaître et à découvrir à la lumière de tout ce qui se passe aujourd'hui.
Voilà, et j'espère qu'il y aura de nombreuses curieuses et de nombreux curieux voilà, qui voudront se plonger dans sa vie et se rendre compte voilà, qu'une biographie, ça peut être aussi agréable à lire tout autant qu'un roman.
Et donc, le prochain ouvrage, un roman ou une biographie ?
Mais justement, le prochain, voilà, ce sera un roman historique, mais je reste toujours attachée à l'histoire. Et j'aimerais par la suite pouvoir alterner biographie et roman historique.
Audrey Marty, un grand merci d'être venue à Parole d'auteur.
Mais c'est moi qui vous remercie de cette deuxième invitation.
Merci aux auditeurs pour leur fidélité, merci à Coraline à la technique. Et je rappelle pour les auditeurs donc le titre de cet ouvrage, Roland Bonaparte, le prince savant, paru chez Le Papillon Rouge, éditeur. Au revoir à tous et bonne lecture.
Merci, au revoir.